amis de Radio Silence, bonjour. J'ai une pensée pour Madame Royal, qui vient d'être nommée ambassadrice de l'Antarctique et de l'Arctique, par celui qu'elle a soutenu. Et j'ai une pensée pour elle parce que elle avait dit quelque chose de très intéressant, vous vous souvenez, lors de la relation entre Trier, Valeur et M. Hollande. Madame Royal, j'allais dire Madame Hollande, avait dit, finalement, elle avait réfléchi, elle avait dit, je crois, depuis New York, elle avait réfléchi, elle était quelqu'un de très généreux qui acceptait de partager ses jouets avec ceux qui n'en ont pas eu lorsqu'ils étaient gamins. Allusion à la relation aux pauvres. Être pauvre, c'est pas seulement manquer de biens matériels ou d'argent, c'est être déjà pauvre d'esprit, manquer de classe, manquer de savoir-vivre, toujours regarder ce que l'autre a, être ravagé par l'envie. Alors ça, c'est cette phrase-là, je la retiens encore plus fort aujourd'hui. Je me dis, ah oui, il faut savoir partager. Alors on va partager Trump, qui est venu, vous voyez, hein, tous ces gens qui ont passé Trump à la moulinette. Trump, c'était un fou furieux. Trump, c'était quelqu'un de nul. Trump, c'était... Qu'est-ce que n'a-t-on pas entendu? Quand on faisait campagne en faveur de Trump, tout le monde me disait, mais laisse tomber, tu perds ton temps, il ne gagnera jamais, c'est un loser, etc., etc. Oh là là, tout le monde rigolait, puis finalement, il a gagné, puis là, voilà, on va cirer les pompes. OK, on partage. On laisse le jouet à ceux qui n'en ont pas eu lorsqu'ils étaient gamins. Ça, c'est le mot pour commencer. D'ailleurs, c'est aussi celui qui suit hein, parce que vous savez, à chaque fois qu'un gouverneur de colonie est élu, il fait la purge. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est de nommer ses copains, ses petits amis à des postes. Alors, Madame Royal fait partie voilà, du lot. Il y en a eu d'autres. Et il y en aura d'autres, le contingent sera très, 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 très important. Mais ça marche comme ça dans les républiques bananières. Pourquoi ça ne marcherait pas ici? Nous sommes en république bananière. Sommes-nous en république bananière? Certains vont dire, ah mais non, quand même, il ne faut pas exagérer. La mafia institutionnelle, c'est le propre même de la république bananière. Et en plus, s'il y a un trait qui définit très bien ce que c'est que la République bananière, en fait, ce qu'on mettait derrière, c'est de voir que la démocratie et l'apocalypse voilà, sont alignés exactement au même endroit et qu'il n'y a aucune différence, c'est du pareil au même. Ce qui m'amène à quelque chose de plus, comment vais-je dire, d'international. Hein. J'ai lu un billet très intéressant dans le Ron Paul Institute. Le Ron Paul Institute, qui est un think tank à Washington, D.C. Alors moi, j'ai écrit là récemment un billet en parlant de l'Empire invisible, The Faceless Empire, en anglais, en américain ou en anglais, je ne sais pas trop, il faut que je booste mon anglais, oh là là. Et c'est pareil, hein, c'est pas une télépathie, mais voilà, on échange intellectuellement avec le Ron Paul Institute. Ils ont complété, parce que j'ai aussi ajouté un article en parlant de cette cécité visuelle qui est entretenue par les médias pour que le citoyen ne voit rien, ne comprenne rien. On éduque culturellement son regard à ne voir que, voyez un peu, hein, du consommable et du jetable. Et il ne voit pas vraiment ce qui est dit dans le Roi Lion, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il voit. Il est limité, très limité. D'ailleurs, j'ai reçu un coup de fil aujourd'hui marqué « limité ». Comme envoyeur, comme appelant, de la même façon que mon fils, depuis 2 jours, il reçoit le coup de fil que je recevais ici avant, marqué « inconnu », d'un inconnu. Et là, c'est numéro privé, hier à 1h du matin, aujourd'hui à 11h, il répond, il n'y a personne. Bon, j'ai vu la même chose, je suis allé au médecin récemment, du côté de Servenoble, Villefontaine, il y avait un tableau qui représentait un village africain, qui me disait certainement rentre chez toi. C'est une façon de dire un tableau abandonné sur le parking, là où je garde pile poil souvent lorsque je vais au médecin. Donc c'est facile, hein, on suit la conversation téléphonique, on vous suit, on sait où vous allez, on vous flique et puis on laisse des indices comme ça, comme les petits, les morceaux de pain du petit poucet, je crois, et on disparaît dans la nature. Ça, c'est le propre des agents, des sentinelles rampantes de l'empire invisible, comme je l'ai appelé. Et s'il y a une seule chose qui peut nous mettre d'accord là-dessus, sur cette invisibilité, c'est que l'Amérique est l'ombre portée de cet empire invisible. Comment dire, j'ai lu un billet là du Washington Post qui, enfin, c'est un billet repris par des chroniqueurs du Rand Paul Institute, qui un partenaire qui reprend exactement ce que j'ai dit sur. Alors, le billet s'appelle l'Empire Speak, le langage de l'Empire. Le langage de cet empire, donc l'Amérique est l'ombre portée. Il faut suivre, hein, parce que l'empire lui-même, pour la première fois dans l'histoire, il est invisible, on ne le voit pas, mais l'Amérique est son ombre portée. On le voit derrière l'Amérique. Cet empire, il a un langage, et l'exemple qui a donc été mis en évidence, là, est très intéressant, parce qu'il parle de la Syrie. La guerre en Syrie, selon ce, comment on va dire, éditorialiste du Washington Post, qui en ce moment est très critiqué, mais qui se révèle, hein, Charles Krauthammer, je ne sais pas prononcer son nom, vous chercherez. Et il dit que la Syrie est donc la grande guerre civile musulmane qui oppose la Syrie, elle est le terrain de cela, qui oppose les chiites et les sunnites. Le théâtre donc de cette opposition-là découpe deux forces. D'un côté, il y a ceux qui sont, on va dire, menés, comme on dit, par l'Iran, donc derrière lesquels il y a, derrière lequel il y a la Russie, la Syrie, l'Irak, le Hezbollah, qui serait comme ça. Comment on va dire, le fer de lance de l'Iran. Et tout cela forme ce qu'on appelle le croissant chiite. De l'autre côté, on a l'Arabie saoudite, derrière lequel il y a l'Égypte, la Jordanie, les États-Unis. Donc deux grands blocs comme ça qui se font face en Syrie pour une forme, pour l'hégémonie territoriale ou régionale, parce que ça c'est le grand truc, hein. Dans cette région-là, on se dispute l'hégémonie. Et donc Israël, qui est donc l'Amérique est l'ombre portée, donc vous voyez ce que je veux dire, et de son côté avec l'Arabie saoudite, et eux, ils soutiennent ce qu'ils appellent les islamistes modérés, et de l'autre côté, ils diraient, d'après eux, que du côté de l'Iran, avec la Russie, la Syrie, l'Irak, le Hezbollah, ce sont les islamistes intégristes. Donc une guerre entre musulmans qui oppose vraiment les musulmans, ça ce sont les métaux de cet empire invisible, parce que vous savez que pour exister, à ce niveau-là, il faut diviser les frères et puis les amener à s'entretuer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Syrie est complètement dévastée. C'est pour ça que je vous disais, au nom de la démocratie, hein, on apporte l'apocalypse. La Libye, vous savez ce qui s'est passé, c'était pareil. Malheureusement, il y a un double problème qui se greffe là-dessus, c'est là où ISIS intervient. C'est que normalement, les musulmans ne doivent pas s'entretuer. Donc, l'Amérique, tout en étant avec l'Arabie saoudite du côté des sunnites, se méfie quand même parce que, voilà, ce sont des terroristes modérés, mais qui ne sont pas sûrs à 100% la prévision créée, le califat. Il faut suivre, hein, parce que c'est vraiment le langage de l'Empire. Il faut suivre. Et derrière cela, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on s'oppose sans fin via voilà, une hégémonie territoriale recherchée par l'Amérique d'un côté sur l'Iran? Du coup, l'Iran est l'ennemi. Mais ce qui est encore plus intéressant et plus poussé dans l'analyse sur cette question syrienne, c'est que l'éditorialiste du Washington Post, alors franchement, moi, quand les gens font des choses bien, je le dis, hein, j'ai pas besoin de mentir, il dit. Avant, c'était la guerre froide. Donc, la guerre froide arrangeait bien le Pentagone, la CIA, la NSA, dans ce qu'on appelait, ce que le président Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. Ça marchait très bien, sauf que personne ne détient la clé du cycle, la clé du cycle de l'univers. En 1989, l'Union soviétique s'est écroulée soudainement et sans crier gare. Et du coup, l'Amérique s'est retrouvée sans ennemi. À ce moment-là, la philosophie consistant à avoir un ennemi était un peu en panne. Alors après la chute du mur, enfin du mur, ça va ensemble, hein, de l'Union soviétique, il n'y a plus d'ennemis pour justifier la guerre continuelle. Et il faut donc en créer un, on trouvera un très vite, rapidement. C'est Saddam Hussein. Saddam Hussein déclaré dictateur par le Pentagone et la CIA. Et du coup, l'Irak connaît 11 années de sanctions qui tueront des milliers d'enfants irakiens avec, vous savez, l'embargo médical, etc. Du coup, il est évident que ce terrorisme brutal au nom de la démocratie, parce que c'est ce que le président Bush avait annoncé, revient comme un boomerang via donc tout ce qui se passe par la suite. D'ailleurs, il paraît que le même jeu avait été fait avec Staline. L'Empire britannique, l'Empire américain, qui est donc l'ombre portée de l'autre empire qui ne dit pas son nom, qui est l'Amérique étant totalement instrumentalisée comme un cheval au service de cet empire dont il est l'ombre portée, cet empire-là, il veut l'hégémonie régionale, il veut l'hégémonie mondiale. Et quoi de plus noble que d'utiliser l'Amérique comme cheval de Troie? L'Amérique a donc sémé la mort au nom de la démocratie, et en sémant la mort, elle a créé un terrorisme islamiste, mais qui n'est en fait que la réponse du, comment on dit, de la bergère au berger. Le terrorisme musulman, tel qu'on le présente, est un faux ennemi. C'est un faux ennemi parce que il a été créé. Vous ne pouvez pas aller attaquer les gens et attendre à, je veux dire, vous attendre à ce qu'ils ne répondent pas comme des lâches. Et quand ils répondent, vous les mettez un peu dans cette situation. Ça, c'est le problème. C'est la spécialité, la spécificité, plus précisément du langage de l'Empire, c'est qu'on est toujours dans la double contrainte. Ils viennent, ils vous attaquent, vous répondez, ils créent la division, vous répondez, vous êtes toujours en porte-à-faux, quoi que vous fassiez. De toute façon, avant de vous attaquer, ils créent un faux motif pour justifier quelque chose qui est de l'ordre de l'injustifiable. Et ils arrivent comme ça, et ils font ce qu'ils veulent. Et si vous créez l'ISIS, le califat, ça donne une raison supplémentaire de vous ajouter les sanctions, les meurtres, les destructions. Bref, c'est l'apocalypse. Alors, la question, la conclusion. La conclusion, c'est quand même la question suivante, que c'est pas Krautheimer qui la pose, la question, c'est celui qui écrit, c'est le Future of Freedom Foundation, qui écrit et qui dit, oui, mais alors la question qu'on se pose quand même, c'est que l'Amérique, en allant envahir l'Irak, déjà, elle n'était pas allée pour l'envahir, elle est allée pour la sauver, a mis en place un gouvernement chiite. Alors qu'elle est pour l'Arabie saoudite, vous comprenez? Donc elle-même n'a pas confiance en son allié saoudien, qui lui aussi est l'homme pour porter de l'autre, voilà, de l'empire invisible. Alors la question qui se pose, mais pourquoi les Américains meurent depuis 14 ans pour préserver le régime chiite, alors que les Américains sont positionnés derrière les sunnites? Cela n'a vraiment pas de sens, en fait. Si, ça en a un. C'est du foutage de gueule. Et lui, il appelle ça, le Future of Freedom Foundation appelle cela l'impérialisme. Et il dit que l'impérialisme, c'est certainement, c'est sans aucun doute, quelque chose de très difficile à comprendre et à apprendre. Un peu comme le langage de l'Empire invisible. Bien. Je peux pas vous dire plus que cela afin pour vous montrer, pour vous faire toucher du doigt l'Empire invisible et son langage, qui fait que on ne le détecte vraiment jamais comme un serpent qui arrive. Vous voyez, le serpent, c'est celui qui vous perd. Et après, qui se moque de votre chute en rigolant tout doucement. Et en fait, il se joue de vous. Il n'a aucune morale, il n'a aucune valeur. Et peut-être que lui-même ne sait pas où il va. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est de vous faire perdre. Comment vous allez faire avec tout cela? Écoutez la musique. Ça évite de devenir fou.